le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Au-dessus du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dense.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait 3 chapelles dans la commune.
Bonjour, vous écoutez l'émission Emmenez-moi. Alors c'est le deuxième numéro qui est consacré, celui-ci, au moulin du Val de l'Indre. D'Artane à Truye, ils sont très nombreux, souvent mis en valeur, ou parfois, au contraire, vous constaterez qu'ils sont un petit peu à l'abandon. Mais connaissez-vous vraiment leur histoire ? Alors pour en parler, je suis accompagné de Pierre Audin, qui est un historien du Val de l'Indre, un historien local et président de la Société d'études de la rivière Indre et de ses affluents. Et Monsieur Audin a d'ailleurs la gentillesse de me recevoir chez lui au moulin des Floriaux à Mont. On ne pouvait donc pas trouver mieux pour parler du sujet. Pierre Audin, bonjour.
Bonjour.
Alors je vous ai bien présenté, hein, c'est ça,
on est d'accord ? Oui. Ça me convient.
Donc on est chez vous au moulin des Floriaux, dont vous aurez certainement l'occasion de nous parler un peu plus précisément tout à l'heure. Mais déjà, pour parler des moulins, il faut parler de la rivière, l'Indre. Quelle particularité, quelles caractéristiques peut-on lui accorder ?
C'est une rivière tout à fait particulière, du moins par sa taille, par sa longueur, parce que c'est la plus grande rivière privée de France. Rivière privée. Parce qu'en fait, elle a une forte pente, elle est presque à sec. S'il n'y avait pas les barrages des moulins, les déversoirs, elle serait à sec l'été. Elle déborde facilement l'hiver, donc elle n'a pas été vraiment navigable. Par contre, c'est l'idéal, la forte pente, c'est l'idéal pour les moulins.
Alors, qu'est-ce que vous appelez la forte pente ?
Eh bien, il y a une pente qui est supérieure à un certain nombre d'autres rivières,
oui.
Qui permet d'avoir de la pression pour faire tourner les roues de moulins. Et donc, les moulins ont été construits. À peu près tous les kilomètres sur cette rivière, parce qu'elle était très favorable, même quelquefois, certains face à face. Ici, au Floriaux, il y a le moulin du Breuil. Sur le pont de Mont, il y a 2 moulins côte à côte, par exemple.
Effectivement, il y a une forte concentration de moulins, et donc ce, tout au long de la rivière,
depuis
seulement dans le Val de
l'Indre. Voilà, c'est toujours le même système. Et d'ailleurs, ils fonctionnent tous ensemble, c'est-à-dire chacun a une hauteur d'eau à respecter sur l'ensemble de la vallée de l'Indre.
Bien, alors... Un moulin à eau, finalement, on en parle souvent, on en voit beaucoup, mais qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, d'abord, ça servait essentiellement à moudre les céréales, soit panifiables ou soit un mélange d'orge et d'avoine grossièrement concassé pour le bétail. Mais il y a aussi d'autres moulins qui avaient d'autres fonctions, par exemple, fouler la laine pour en faire du feutre, pour en faire des tissus, les moulins foulons. C'était le cas, par exemple, au moulin d'Artane et au moulin de Mont. Il y avait ces moulins foulons avec des pilons en bois qui écrasaient donc la laine des dizaines et des dizaines de fois pendant des heures pour arriver à faire du tissu finalement.
Donc il y avait tout un tas d'industries qu'on retrouvait autour de ces moulins.
Il y avait le moulin qui avait par exemple un gros marteau très lourd qui battait le fer qui pouvait servir à des forgerons. Mais j'en ai pas trouvé ici à proximité. On pouvait actionner une scierie. Par exemple le moulin du Lavoir à Èvre, bien par un mouvement de va-et-vient, grâce à la roue, on pouvait scier des grumes, des gros troncs d'arbres. Il y avait d'autres moulins qui, par exemple, Artane, le grand moulin d'Artane, écrasait le calcaire blanc pour faire c'était du kaolin pour faire de la porcelaine. C'était envoyé ensuite à un moulin d'Azel Rideau qui broyait ça finement et ça allait à Limoges pour faire, par exemple, la porcelaine. Donc, il y avait, par exemple, plus tard, ça fabriquait de l'électricité, mais ça pouvait être aussi comme à Mont. Le moulin de la Croix-Rouge, un système d'une sorte de bélier, de pompe pour monter l'eau sur le plateau pour alimenter les bassins du château.
Finalement, on ne fabriquait pas autant de farine que ça.
C'était quand même la majorité, mais il n'y avait pas que ça.
Il ne faudrait pas qu'on croie qu'il n'y ait que ça, oui, effectivement. Donc le moulin à eau, combien à peu près de Truye à Artane ?
Eh bien, il y en a une vingtaine. Il y en a eu un peu plus, mais ils n'ont pas tous fonctionné en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait des moulins qui étaient à l'arrêt ou démolis. On en a refait dans d'autres communes. Actuellement, il y a encore 19 sites de moulins. Je parle de sites parce qu'il y a des sites comme à Vonte, à Èvre. Oui. Il y a 3 moulins côte à côte sur la même propriété.
D'accord.
Ou au Ripaud de Mont, il y a encore 4 petits moulins, mais il y en a eu jusqu'à 8.
Mais là, vous dissociez par exemple à Mont, celui du Breuil, de celui des
oui,
Fleuriaux
oui,
qui
oui,
est
oui,
l'autre.
Là, c'est différent. Là, ouais,
c'est
y a quand
ces
même...
deux rives différentes.
Voilà, voilà.
Alors, donc 19 moulins, ce qui est quand même assez énorme. De quand datent-ils ?
Eh bien, les plus anciens datent du 9e siècle. C'est le moulin d'Avon à Èves. C'est une tour carrée qui ressemble d'assez près à celui-ci où nous sommes. Au moulin des Fleuriaux. Il est cité en 844, ce moulin d'Avon. Et ouais. Il existe toujours, il ne fonctionne plus, mais donc ça a bientôt 2 millénaires qu'il y a un moulin au même endroit. C'est un des sites les plus anciens de toute la vallée de l'Indre. Et ça, c'est très, très important.
Il alors, ressemble toujours à l'heure actuelle à son bâtiment d'origine.
Oui, il était reconstruit à peu près à la même place et à peu près à la même forme. Donc ça, c'est formidable de voir la pérennité. Il y en a d'autres moulins qui ont été construits en même temps, on le sait par les textes de l'abbaye de Cormerie,
oui.
À Truy, par exemple, qui ont complètement disparu, et à Èves aussi. Tandis que lui est toujours resté là ou reconstruit peut-être 5, 6, 10 fois de suite.
Donc là, c'était les premiers vers 800 et ensuite est venue
après,
une période...
Oui, il y a une période, il y en a, mais on les a toujours... On les connaît toujours pas par les textes.
Ouais.
C'est grâce aux textes des abbayes. C'était toujours, la plupart du temps, par des moines.
Donc là, on parlait bien tout à l'heure d'un moulin qui a été construit dans les années 800 et qui est toujours d'actualité aujourd'hui,
voilà.
Qui a juste été simplement reconstruit.
Qu'on peut toujours voir, voilà. Il y a le moulin du Lavoir à Vénier. Vous n'étiez pas très loin de quand vous étiez
à l'arboretum
de,
oui.
De Vénier. Voilà. Lui, il est cité en 991. Il appartenait aussi
oui.
À l'abbaye de Cormerie, parce que par ici, c'était surtout l'abbaye de Cormerie. Et un peu plus tard, à partir du 12-13e siècle, ce sont aussi les seigneurs, les châtelains, qui ont construit des moulins. Mais c'était très, très coûteux. Il n'y avait donc que les abbayes les plus riches et les seigneurs les plus riches. Et quelquefois, ils se mettaient même à deux ou à trois. C'est-à-dire quand un moulin avait deux roues, eh bien, il pouvait être à deux propriétaires différents parce que le seigneur local n'avait pas les moyens de se payer un moulin.
Et jusqu'à quand on a construit des moulins ?
Eh bien, jusqu'au 19e siècle, jusqu'aux années 1880, le grand moulin de Vénier, par exemple, le grand
oui.
Moulin municipal,
oui.
Son vrai nom, c'est le moulin Fontaine, c'est un des
ouais.
Derniers noms des derniers propriétaires. Il a été construit dans les années 1870-75 par le châtelain du château de Candé à Mont.
Combien de temps il a tenu ce moulin ?
Alors, les petits moulins se sont arrêtés dès les années 1880-90, les derniers vers 1900.
Et on a construit celui de Vénier à ce moment-là, c'est ça qui est...
Voilà, parce que ce n'est pas un moulin, en fait, c'est une minoterie. Ce que je voulais dire, c'est que les petits moulins ont été ruinés par les plus riches qui ont construit des grandes minoteries à 2-3 étages et qui ont remplacé les meules en pierre, en silex, par des cylindres cannelés, alors deux cylindres à l'horizontale superposés, et qui quelquefois ont utilisé le pétrole ou l'huile comme moteur pour fonctionner même l'hiver quand il y avait trop d'eau, ou même l'été quand il n'y avait pas assez d'eau. Donc ces grandes minoteries-là ont fait disparaître les petits moulins. Les grandes minoteries, il en est resté une jusque dans les années 50-60, et à peu près une par commune. Le grand moulin de Vénier dont je parlais,
oui.
Le grand moulin d'Artane, le grand moulin ducal de Montbazon, par exemple, à Mont, c'est le grand moulin de Beaumet. Ce sont les moulins qui ont ruiné, les minoteries qui ont ruiné les petits moulins.
Donc, on a, comme là vous le dites, des particularités architecturales qu'on retrouve d'un moulin à l'autre, ou bien ce sont des, surtout quand ils ont été construits à la même époque, ou bien ce sont des envies précises d'un propriétaire ou d'un seigneur.
Oui, finalement, ils sont à peu près tous différents. J'ai cité quelques ressemblances entre le moulin d'Avon et à Èves et puis le moulin des Fleuriaux, mais en réalité, ils sont tous un petit peu différents comme forme. Par exemple, le moulin du Breuil à Mont, qui fait face à celui où nous sommes, eh bien, il est un petit peu en pointe, en triangle, face au courant pour mieux résister à la pression de l'eau. D'autres n'ont qu'un étage, deux étages, trois étages. D'autres sont rectangulaires. D'autres sont un petit peu en aile, en angle.
Oui.
Donc, chaque forme est différente.
Et donc, aujourd'hui, ces moulins ne sont plus du tout en activité, sans exception.
Oui, ils sont tous arrêtés dans les années 50-60 pour les tout derniers, vraiment, parce qu'ils ont broyé encore un petit peu de mélange pour le bétail, d'orge et d'avoine. Mais en réalité, dans ces années 50-60, on a vendu aux agriculteurs des petits moulins électriques,
oui.
60 cm de haut, qu'on pose sur une table. Alors que les agriculteurs ont broyé eux-mêmes leur mélange. Alors là, c'était la fin de tous ces petits moulins.
Et donc, ils sont devenus des propriétés privées. Des
oui,
habitations.
Voilà, souvent au début des résidences secondaires, et puis au fil des années, beaucoup ont été achetés et les gens y ont habité pratiquement toute l'année.
comme vous ici, au Fleuriot.
Oui, malgré les inconvénients qu'ont les moulins, c'est-à-dire que c'est inondable. Ils sont tous au ras de la rivière, forcément, pour que la roue soit bien dans l'eau. Et donc, ils sont inondables en premier dès qu'il y a une crue.
Oui, parce qu'on leur confère souvent un certain charme inégalable et inégalé. Par contre, on oublie souvent de citer les nombreux inconvénients, comme le trait que vous montriez tout à l'heure d'une crue.
La grande crue de 1982, ici à ce moulin-là, il y avait 1,20 m d'eau. C'est-à-dire que dans toute la vallée, il y avait de l'eau. Ce n'était pas seulement au moulin, mais au moulin, il y en avait davantage qu'ailleurs.
Et alors, rapidement, hormis des habitations, ils peuvent également servir de commerce. Ça peut être des hôtels, voire des restaurants.
Tout à fait.
Des exemples.
Vous pensez au moulin Fleury,
par exemple.
Voilà, qui s'appelait le moulin de Roule-Crotte, parce qu'il est sur un bras de l'Inde qui s'appelait le Roule-Crotte, comme par exemple à Serigny, un affluent de l'Inde s'appelle le Marderon ou Merderon. Hein, qui est, c'est bien significatif.
Des noms particuliers.
On y vidait absolument tout. Bon, après, ça s'appelait. Alors, ce moulin est intéressant puisque vous en parlez. Le moulin Fleury à Vignier, il s'appelait ensuite Moulin Rouge parce qu'il était reconstruit avec un crépi rose qui était typique de tous les moulins. Le moulin des Fleurieux a gardé son crépi rose. Et
celui de Vignier.
Celui de Vignier, le crépi a changé. Il y a encore un moulin rouge à Saché, un peu plus loin. Chez nous, qui a gardé son crépi rose. Alors, il a été reconstruit et le meunier qui l'a reconstruit s'est fait assassiner l'année d'après. Il y aurait toute une anecdote à raconter. On a retrouvé plus tard l'assassin qui habitait les environs. Mais bon, ensuite, quand c'est devenu un hôtel-restaurant, alors on a Moulin Fleury, ça fait plus joli, finalement.
Oui. C'est plus vendeur. Pour les clients,
c'est mieux.
Bien, merci. On va arrêter là la première partie et puis on reviendra tout à l'heure pour s'attarder un peu plus longtemps sur chacun des petits moulins de Truy et Artane de la belle vallée de l'Indre. Merci, à tout de suite.
Comes reality. could not make sense of things. Do is what if you open your eyes.
Emmenez-moi le long des moulins de l'Indre avec Monsieur Pierre Audin au moulin des Fleuriaux. Alors, Monsieur Audin, on n'a rien dit du métier de meunier et de l'industrie un peu de la farine. Qu'est-ce qu'on peut imaginer et à quoi ça ressemblait à la grande époque?
Eh bien, disons jusqu'au XVIIIe siècle, la vallée était très active. On entendait les roues tourner, il y avait les charrettes qui arrivaient, qui repartaient. Les diables qui sur lesquels on roulait les sacs de farine, c'était un métier qui donnait beaucoup de vie à la vallée. Alors ces meuniers avaient souvent du personnel, oui. Et plus tard, quand il y a eu les grandes minoteries, par exemple au moulin de Boumet à Mont, il y avait jusqu'à une trentaine de personnes. Donc ça faisait beaucoup de... Alors il y avait des charrettes qui partaient chercher le grain dans les fermes, ou quelquefois c'était les agriculteurs qui amenaient. Alors ça fonctionnait pas, les petits moulins ne fonctionnaient pas toute l'année, parce qu'en fait il fallait attendre que le blé soit récolté, ensuite qu'il soit battu, donc qu'il soit bien propre, qu'on l'amène. C'était plutôt déjà au mois d'août. Oui. Arrivé au mois de souvent décembre, janvier, il y avait trop d'eau, c'était la crue, les roues ne tournaient plus. Et puis arrivé au printemps, eh bien, il n'y avait plus rien à moudre. Et donc les meuniers étaient souvent, pour les petits moulins, étaient en même temps souvent éleveurs, agriculteurs. Ils avaient les rives de l'Indre et donc ils avaient du bétail pour compenser. Ou alors ils faisaient un autre métier en même temps.
Et est-ce qu'ils faisaient le métier de boulanger, par exemple?
Ça pouvait arriver, mais c'était un peu spécial. Il y avait quelquefois, on dit être au four et au moulin.
Oui.
Mais il y en avait relativement peu. En tout cas, dans notre secteur, je n'en connais pas.
On ne peut pas être au four et au moulin, effectivement.
Mais quand même, c'était un métier qui rapportait de l'argent, les gens gagnaient bien leur vie. Au début, donc, ils étaient locataires d'une abbaye ou d'un seigneur. Mais à la Révolution, eh bien, ils ont pratiquement tous pu racheter leur moulin, puisque c'était confisqué, vendu comme bien national. Et donc, les meuniers avaient quand même des économies, parce que ça s'est vendu assez cher. Parce qu'en fait, les meuniers passaient pour un petit peu des voleurs. C'est-à-dire que c'était un peu vrai. Quand ils achetaient le grain, ils trouvaient toujours qu'il y avait un peu trop d'eau, trop d'humidité dedans. Et quand ils rendaient la farine, c'est pareil. Ils essayaient de tricher un peu sur la quantité. D'ailleurs, il y en avait toujours une petite partie pour eux-mêmes, c'était leur salaire. Mais aussi, ils trichaient un petit peu. D'ailleurs, autour des meules, les meules étaient dans des sortes de caisses en bois qui étaient octogonales. Dans les coins, il restait toujours pas mal de farine. Si bien que plus tard, il a fallu les obliger à avoir des caisses rondes autour des meules, ça protégeait les meules pour qu'il n'y ait pas de reste de farine. Et donc c'est vrai aussi, ils passaient aussi pour être les coqs de village, c'est-à-dire quand ils allaient chercher ou rapporter la farine ou les grains dans les fermes, souvent la fermière était toute seule. On disait, les fermiers disaient, oui, il vient là, qu'est-ce qu'il fait avec ma femme? Il y avait des jalousies.
Et alors, c'est des choses qu'on peut retrouver au musée, la maison du meunier à Pont-de-Ruan?
Je ne sais pas s'ils en parlent. Ils peuvent parler peut-être des quintaines. C'est-à-dire que, comme il y avait beaucoup de tensions, de jalousie à l'égard des meuniers, oui. Il y avait souvent la quintaine à Èvre. Il y a encore d'ailleurs une place de la quintaine, pas loin du bourg. C'est-à-dire que c'était une sorte de joute qui se faisait sur l'eau. Tous les meuniers du secteur étaient obligés de ramer dans une barque. Oui. Et il y en avait un devant avec une perche en saule fraîchement écorcée, c'est-à-dire toute glissante. Et il devait taper un grand coup de ça avec sa lance au milieu de la rivière. Et on avait planté un poteau avec un écu seigneurial et il fallait qu'il tape dedans. Et en tapant, il glissait, il tombait dans l'eau en général. Et s'il manquait aussi, il tombait dans l'eau. Alors les spectateurs sur la rive applaudissaient beaucoup et c'était à tour de rôle. Presque tous les meuniers tombaient dans l'eau à tour de rôle. C'était une sorte de soupape de sécurité finalement. Au lieu d'aller les lyncher un jour, eh bien, on les sifflait, on se moquait d'eux et tout retrouvait son calme après, quoi.
Alors revenons-en au moulin. Je propose qu'on les prenne de Truye jusqu'à Artane, si tant est évidemment qu'il y en ait à Truye.
Oui, à Truye, il y a eu les tout premiers moulins, mais ils ont complètement disparu. Après, il faut arriver au moulin d'Avon, à Èvre. À Surèvre, il y a 4 moulins. Après,
donc le plus ancien dont vous me parliez
voilà,
tout à l'heure.
Hein. Avant. Mais surtout, les plus beaux, je dirais, c'est les moulins de Vonte. Derrière la clinique, un peu de Chango en contrebas. Il y a 3 moulins côte à côte. C'est dans un site magnifique. Ils ont chacun gardé leurs roues. Donc il y a 3 roues en bon état. Les mécanismes pour certains, les vannes, les déversoirs, c'est quelque chose de très beau comme site. Ces moulins-là ont fonctionné jusqu'aux années 1960.
Alors sur le mécanisme, on n'en a pas parlé, comment ça se passe?
Oui, eh bien, il y a donc une roue avec un axe horizontal donc, oui. Qui traverse le mur du moulin et qui va à l'intérieur du moulin dans la machinerie. Sur cet axe horizontal, il y a la même roue qu'à l'extérieur, enfin, métallique en fonte cette fois-ci, mais plus petite, donc qui tourne à la même vitesse. Et cette roue-là va entraîner d'autres pignons qui sont fixés sur un axe vertical, qui traverse d'ailleurs tout l'étage, qui fait deux niveaux du moulin. Et sur cet axe vertical, après, il y aura d'autres pignons et d'autres roues qui vont entraîner ce qu'on appelle le système de blutrie, c'est-à-dire pour tamiser la farine. Il faut d'abord la broyer par les meules, et ensuite, elle monte le plus haut possible, et elle traverse toute une série de tamis qui vibrent, et a fait plusieurs fois l'aller-retour jusqu'en haut du moulin, elle redescend, et finalement après elle est triée par catégorie, le son d'un côté, la farine fine, la farine plus épaisse. Il peut y avoir aussi plusieurs sortes de meules. Ici par exemple, il y a 3 types de meules pour faire soit la farine froment, par exemple du froment pour faire du pain blanc pour les riches, oui. Une autre qui va servir à faire un mélange avec du seigle pour faire du pain bis, du pain de campagne, et puis une troisième paire de meules qui va servir à faire un mélange orge-avoine grossièrement concassé. Donc, pour ne pas dérégler les meules, chaque paire de meules avait une affectation différente. Elles ne marchaient pas en même temps.
Mais merci pour cette petite parenthèse technique. Revenons-en au moulin. Donc, le moulin d'Avon à Èvre.
Oui, ensuite, les moulins de Vonte. Les 3 moulins de Vonte dans la même propriété. Magnifique. Après, il y a le moulin des Poulineries. Alors là, vous connaissez un peu l'usine. Il y avait l'usine Sourdillon.
Oui.
Il y a d'ailleurs une grande zone de pêche et de coin de pique-nique achetée par la municipalité à Èvre. Là.
Oui.
Le moulin a disparu. Il ne reste plus que la maison du meunier et puis une petite partie presque au bord de la route là, qui abrite encore les mécanismes.
Et puisqu'on est là, on ne serait pas à côté de l'estuaire là, de l'Échandon
Si, c'est ça. L'Échandon se jette dans l'Indre à Èvre. Sur l'Échandon, il y avait quelques moulins, en particulier le moulin de Perrion et plus encore. Plus près de l'embouchure, il y avait le moulin de Sauquet.
Estuaire, c'est un peu fort.
Oui, voilà, c'est ça.
Embouchure, c'est mieux.
Le confluent.
Et il y avait des moulins sur l'Échandon ou pas?
Sur l'Échandon, il y en avait, donc je viens de vous citer ces deux-là. Il y avait d'autres moulins, mais petits moulins, parce qu'en fait, il y avait très peu de courant.
Oui,
l'été, c'était à sec. Et c'était plusieurs fois sur les petites rivières, ce ne sont pas des roues comme ici. Ce ne sont pas des roues à aubes, ce sont des roues à auger ou à godet. C'est-à-dire des grandes roues qui ont des sortes comme des récipients, des godets accrochés. Et chaque fois que ça se remplit d'eau qui arrive par le haut, et quand c'est plein par la charge, par le poids, la roue commence à tourner. Donc il faut arrêter l'eau, la faire arriver par en haut. Ça peut marcher à partir d'un étang, aussi à condition que la roue soit un petit peu en contrebas. Donc c'est une autre technique, sur les petits ruisseaux.
Alors si on descend encore un petit peu.
Donc après, il y a le moulin de Port-Joie, toujours à Èvre, mais qui est près du bourg, là, qui a encore toute sa machinerie. Alors c'est plutôt une grande mine. Qui a été laissé plus ou moins à l'abandon pendant des années, qui maintenant est restauré. Après, on arrive à Avenier. Alors, Avenier, il y a trois moulins. On a parlé du moulin Fleury,
oui.
Qui n'est plus vraiment un moulin qui n'a plus de machinerie, même s'il a toujours son joli petit pont sur le bras de l'Inde qui s'appelle le roule-crotte.
Oui.
Il y a le grand moulin de Vénier qui est municipal, que tout le monde connaît, avec une très grande roue et puis toute sa machinerie.
Qui est très visible, lui.
Voilà, lui, on peut le visiter. Hein, tout le monde peut. À côté, il y a la maison du meunier, hein, dans le style art déco. Et puis, un lavoir aussi à côté. Et à Vénier, il reste le moulin du lavoir, donc, j'en parlais tout à l'heure, qui a été transformé en scierie un peu plus tard. Qui est encore une partie du bâtiment qui date du 15e siècle. Un très beau site aussi. Et à Montbazon, il n'y a que 2 moulins. Le grand moulin ducal, parce qu'il appartenait au comte, qui est devenu ensuite duc de Montbazon, c'était le moulin banal. C'est-à-dire que beaucoup de...
Où est-ce qu'il se situe, celui-ci?
Rue des Moulins.
Rue des Moulins.
la rue qui passe derrière l'église.
Oui,
là.
Oui, oui.
Là, donc, il y a un certain nombre de moulins étaient obligatoires. C'est-à-dire que dans la circonscription possédée par le seigneur, ou même une abbaye, ça peut être aussi un seigneur en même temps, les paysans étaient obligés d'amener leur blé à ce moulin banal. Dans toutes leurs céréales, ils ne pouvaient pas avoir leur moulin particulier ou aller à un autre moulin privé. Donc, beaucoup de ces moulins-là étaient obligatoires pour les paysans, selon la circonscription où ils habitaient. Donc là, ça a été transformé en une grande minoterie, aussi agrandie à plusieurs reprises. Et maintenant, ça
qui, actuellement, ce sont des logements. Hein.
Où ça sert de gîte. Alors, après ça, on arrive à Mont. Alors, Mont, c'est la commune qui a le plus de moulins. Disons qu'il y a 7 sites différents de moulins, mais avec le ripos, où je disais tout à l'heure, il y a eu jusqu'à 8 moulins, évidemment, le nombre augmente. Un moulin typique, à l'entrée en sortant de Montbazon, à l'entrée de Mont, c'est le moulin de la Freinée. Il y avait une grande minoterie, là, qui a été complètement démolie, rasée par François Coty, qui était le constructeur, destructeur et reconstructeur du château d'Artigny. Il l'a démolie, il l'a remplacée par une sorte de villa-moulin, un peu dans le style, on dirait, anglo-normand, c'est-à-dire avec des sortes de poutres apparentes dans la façade,
oui,
qui sont maintenant repeintes en vert, d'ailleurs. Donc ça, c'est un joli petit moulin qui est habité par des Anglais, je crois, comme résidence secondaire. Après, on arrive au ripos. Alors, le ripos, c'est spécial. Là, c'était d'abord, dans les activités des différents moulins, j'en ai pas parlé, mais les moulins au XVIe siècle, le ripos, ils servaient à faire du fil de fer. Ils servaient à étirer le fil de fer. C'était vendu à la marine.
Oui.
Et puis, ça a fait faillite. Et ensuite, c'était remplacé par d'autres moulins rachetés par le roi pour faire justement de la poudre. Alors, c'était typique de ces moulins à poudre. Ce sont des pilons à la verticale, exactement comme les moulins à fouler la laine dont je parlais tout à l'heure. Là, ils écrasaient un mélange de salpêtre et de poudre de bois de bourdaine, de soufre. Voilà, je cherchais le troisième composant. Tout ça, il faut écraser avec beaucoup de précaution parce que ça risque d'exploser. Plus tard, ces pilons en bois ont été remplacés par des meules, mais sur champ. Des meules qui sont debout, un peu comme les moulins à huile d'olive, par exemple, ou à huile de noix,
oui,
hein, qui roulent comme ça. Et il y a encore un des moulins du ripos qui a été transformé en musée. On voit encore les pilons, les meules à la verticale. On voit aussi les ouvriers du ripos avec leur tenue spéciale. Il y a un autre moulin qui a été conservé dans lequel on a installé une turbine horizontale qui sert à faire une partie de l'électricité du ripos. Alors l'électricité, dans les années 1910-1915, il y a pas mal de moulins, à peu près un par commune, qui a servi à produire de l'électricité. Ici où nous sommes, par exemple, les Fleuriaux, 1904 à 1913, ça alimentait le bourg en courant continu. Le bourg est à 800 mètres. Et quand il y a eu plus d'abonnés, eh bien c'est le moulin du pont de Mont, qui est lui directement dans le bourg, qui a pris le relais pour fabriquer l'électricité. C'était pareil à Artane, à Pont-de-Ruan, différentes communes comme ça.
Deux ou trois moulins différents au ripos.
Oui, il y en a eu quatre au début et jusqu'à huit.
D'accord.
Ensuite, il y a le grand moulin de Beaumé à Mont, la grande minoterie. Alors là, c'est un peu spécial aussi parce que cette grande minoterie de Beaumé était reconstruite plusieurs fois. C'était un petit moulin, puis un grand moulin rasé et reconstruit par Drac del Castillo, c'est-à-dire le châtelain du château de Condé, le même qui a construit le grand moulin de Vignier d'ailleurs. Hein. Et puis, il a ajouté un moulin à grain au bord de la route. Il y a un bâtiment qui est un moulin à grain. Plus loin, il y avait un autre bâtiment. Et ce moulin à grain, il a été relié plus tard au moulin directement. Je me trompe, là. Non, c'est pas ça. C'est un magasin à grains au bord de la route. Il a été relié par une vis sans fin directement au moulin qui est à 40 mètres.
Okay.
Et alors, au moment de la guerre, il a été réquisitionné par le ministère de la Marine. Il devait être associé au ripos, qui était militaire à ce moment-là aussi, hein, pour servir de dépôt. Et puis finalement, ça n'a pratiquement pas servi. Et plus tard, dans les années 60, il a été vendu et la municipalité de Mont s'est demandé s'il ne fallait pas y installer la mairie. Puis comme c'était un peu inondable et puis comme il n'y avait pas de subvention pour restaurer l'ancien, c'était mieux de faire du neuf. Eh bien, on a préféré...
Il faut dire qu'il est grand.
Oui, on a préféré faire une nouvelle mairie. Donc, et plus tard, c'est François Coty, le constructeur du château d'Artigny, qui a installé une mini-centrale électrique pour alimenter le château d'Artigny. Et on arrive un petit peu après donc, à d'autres moulins de Mont. Là, il y a les deux moulins qui se font face. Hein, le moulin d'ici où nous sommes et le moulin des Fleuriaux, donc qui est le moulin du Breuil.
Oui.
Et sur le pont de Mont, il y a aussi deux moulins côte à côte.
Dont l'un est dans un sale état.
Voilà, il y a le moulin de la Croix-Rouge, parce qu'en 1914, le propriétaire, c'était le châtelain du château du Breuil y a accueilli des blessés de la guerre de 14. Oui. Et ensuite, on est installé une sorte de bélier, pas vraiment un bélier hydraulique, mais un bélier quand même, qui par la rotation de la roue permettait de monter l'eau donc jusque dans le parc du château du Breuil. Et ces deux moulins là, sur le pont, le moulin du pont et le moulin de la Croix-Rouge, se sont disputés pendant des années, se sont disputés l'eau, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour les deux moulins. Pour les historiens, c'est précieux, parce que tous les ans, ils écrivaient au mois de mars et avril au préfet pour se plaindre, et l'autre l'écrivait le mois d'après. Et donc on a 20 cm de documents aux archives, pour les plaintes de ces deux meuniers-là. Et ensuite, à Artane, il n'y avait plus que trois moulins. Le Grand Moulin, alors lui, c'est pareil, il a toute une histoire, on va peut-être abréger un petit peu, mais enfin, cette grande minoterie d'Artane, eh bien, elle a comme caractéristique d'avoir eu, à un moment donné, une roue pendante. C'est rare, on trouve ça qu'au Grand Moulin de Ballon. C'est-à-dire une roue qu'on peut manœuvrer pour la faire monter ou descendre suivant le niveau de l'eau. Avec des vérins, on tourne des vérins, on l'a fait monter, pas beaucoup, mais disons, elle peut varier de 40-50 cm, ça lui permet de fonctionner, même l'hiver quand il y a beaucoup d'eau et l'été quand il y a peu d'eau.
C'est quelle année ça?
Eh bien, ça a été fait au 19e siècle, ça, parce que c'est quand même assez technique.
Innovateur, oui.
Ce moulin, il a à côté gardé sa roue, c'est un petit abri, oui. Et puis la maison du meunier qui est à côté. Beaucoup de moulins ont une très jolie maison de meunier. Et puis, pour finir, eh bien, les deux derniers, les moulins de Potard et Moulin Closet, vous ne les connaissez pas sous ces noms-là, mais quand vous arrivez après Artane, sur la route qui mène à Pont-de-Ruan,
oui.
À Pont-de-Ruan, vous avez à droite deux moulins collés au bord de la route, c'est sur la commune de Pont-de-Ruan,
oui.
Mais à gauche de la route, vous avez deux moulins qui, eux, appartiennent à la commune d'Artane, le moulin Potard et le moulin Closet. Et Balzac en a parlé en 1835 dans son roman Le Lys dans la vallée. Il a parlé de trois moulins, des deux d'Artane et un seul des deux Pont-de-Ruan, parce que le plus grand moulin, le premier, n'était pas construit encore. Il a dit, figurez-vous, trois moulins posés parmi des îles gracieusement découpées au milieu d'une prairie d'eau.
Alors aujourd'hui, combien se visitent et à quelle occasion?
Eh bien, il y a pratiquement pas de moulin qui se visite. Il y a le grand moulin de Vénier qui est municipal, qui est communal. Exactement le moulin sur Pont-de-Ruan, mais là, on sort des limites. Là, il est communal aussi, mais on sort des limites directement de la CCVI. Et puis alors, quand il y a les journées des moulins ou les journées du patrimoine, quelques propriétaires peuvent occasionnellement ouvrir, donc pour une journée.
Dont vous?
Oui, mais aussi, par exemple, un moulin sur les Chandons, ou alors les autres, je ne vois pas trop, les beaux moulins de Vonte, de temps en temps, s'ouvrent aussi. Le moulin de Vénier, on en a parlé, le moulin de Beaumet-Hamont, rarement aussi, mais ça peut arriver. Donc c'est vraiment épisodiquement, ça dépend des années.
Il n'y a pas de journée des moulins organisée par une commune ou en dehors de cette journée de patrimoine?
Si, il y a des communes essaient de demander aux propriétaires, mais il y en a souvent peu qui ouvrent. D'abord, il faut qu'ils se trouvent là, puis qu'ils soient disposés à ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a quelques contraintes quand même. Il faut que l'entretien soit bien, c'est-à-dire qu'il faut tondre le gazon, il faut fleurir, il faut préparer un petit discours.
Et vous, pour vous faire un peu de publicité, qu'est-ce que vous avez en dehors de ces journées du patrimoine?
Oui, il y a les journées des moulins d'un côté, les journées du patrimoine de l'autre, mais autrement, on ouvre à nous, ici, à tous les touristes qui se présentent, toutes les associations qui demandent, parce qu'en fait, j'en profite pour montrer toutes les publications faites par la CERIA, la Société d'études de l'Inde. Donc, on a fait pas mal de livres.
Donc, vous êtes le président.
Vallée, des cartes postales, des DVD, des choses comme ça. Donc, j'en vends à ce moment-là. C'est pour l'association que j'ouvre. Puis, en tant que particulier, j'aime beaucoup quand les touristes s'intéressent au site. C'est-à-dire que, comme c'est privé partout, je trouve que c'est dommage de garder ça,
c'est ça.
Caché.
C'est ça qui est dommage.
Dans beaucoup d'autres pays, quand les Allemands viennent ou les Hollandais, ils disent « Mais partout, chez nous, c'est ouvert au public. Et ici, partout, c'est privé, il n'y a pas d'accès. » Ce matin encore, j'avais deux touristes hollandais qui m'ont arrêté
avec l'Indre à vélo
devant le portail. Et je leur ai fait signe d'entrée. Voilà comment ça se passe, mais tout le monde ne fait pas comme moi.
Si pour aller plus loin, il y a un livre également dont vous pouvez rappeler le titre.
Oui, j'ai écrit les moulins de l'Indre Tourangelle. Donc, il y a une page ou deux pages simplement illustrées sur chacun des moulins de la vallée de l'Indre. Il y a aussi, je parle des moulins disparus. dans notre secteur, là, il y a une dizaine de moulins qui ont disparu finalement, hein, qui ont fonctionné à certains moments de l'année et puis, ou à certains siècles, et puis certains ont été démolis par la grande crue de 1770. Cette crue de 1770 a endommagé tous les moulins de la vallée de l'Indre, hein, donc surtout à partir de Cormery. Là, il y a des moulins qui ont disparu. Il y en a deux à Mont, par exemple, qui ont disparu et qui étaient en ruine. Et pendant la Révolution, eh bien, le curé de Mont s'est caché dans ces vestiges-là pendant plusieurs années pour échapper aux révolutionnaires. Il y en a d'autres, ouais, d'autres qui ont été reconstruits. Il y a une très belle villa que tout le monde connaît, prend pour un moulin. C'est ce qu'on appelle le moulin des Avrins à Bombazon, derrière le moulin du Cal, dans la même rue
des moulins. Oui.
En fait, ce n'est pas un moulin, parce que le moulin était une huilerie de colza. Voilà encore une autre utilisation des moulins, écraser le colza pour faire de l'huile. Et comme c'est inflammable, mais un jour, il a brûlé complètement. Et alors, on a reconstruit sur l'emplacement du moulin une belle villa, mais sur vraiment la digue qui enjambait le moulin. C'est-à-dire que l'eau continue à passer dessous. Mais ce n'est plus du tout un moulin, c'est une villa construite dans le style anglo-normand.
Ben, merci beaucoup. Effectivement, il aurait été dommage de ne pas parler de cette crue de 1770. Merci, Pierre Audin, d'avoir été avec nous dans Emmenez-moi et sur la radio Animation Jeunesse. Et à bientôt.
Merci à vous.
Le patrimoine et la culture ne pouvant pas parler d'eux-mêmes, il faut un intervenant.
En gros, à cette époque, la France est morcelée entre plusieurs seigneurs.
Dès le premier millénaire, on va parler de Candé, mais dans des dialectes différents. Hein. Les Celtes, les Latins parlent de Condat, Condatum, Condéium.
Sud du château d'Èvre, là, on a suffisamment maintenant d'éléments pour voir qu'on a un habitat dans ce type.
Disons qu'avant la Révolution, on comptait trois chapelles dans la commune.